moi cette semaine. Alors, une variété. Mais c'est une joie d'être avec vous ce matin. Il y a plusieurs visages là, que je ne connais pas. Alors, bienvenue à ceux qui nous visitent pour une première fois. Et bienvenue aux vieux visages qui étaient partis en vacances et qui sont revenus. Et ce matin, on va parler un peu des deux chants qu'on a eus en dernier. Quand je les chantais, je me disais, encore une fois, on prépare une prédication, on choisit un passage. Et les gars de louange font leurs affaires de leur côté. Ils étaient ici mercredi soir et je leur ai pas communiqué le passage, mais les deux derniers chants vont très bien avec cela. Alors, ça va être... un sujet qui est proche de chacun de nous. Il y a un péché, je dirais, qui est à la source, qui est la racine de tous les maux, n'est-ce pas? Et je suis certain que si je vous donnais un petit examen ce matin pour vous demander de quel péché il s'agit, tous, vous auriez une note parfaite. C'est l'orgueil. Et l'orgueil... je dirais, c'est vraiment la racine de tous les maux. La Bible en parle de long en large, comme on dit ici au Québec. C'est la base de notre rébellion avant de mettre notre confiance en Dieu. Mais c'est la base de notre rébellion même après qu'on a mis notre confiance en Dieu. Il y a des temps où on se laisse emporter par l'orgueil. La Bible dit que c'est la racine de tout péché. C'est ce qui cause les querelles entre les personnes, les divorces dans le couple, les divisions de famille, les divisions d'église, les guerres entre peuples, entre les ethnies. C'est l'obstacle entre Dieu et nous, car Dieu résiste aux orgueilleux. Et c'est l'obstacle au pardon, à la réconciliation. Maintenant, la société n'a pas grand-chose de bon à dire non plus sur l'orgueil. Quand elle voit l'orgueil en action, au travail, dans les familles, dans la politique, parmi les hommes d'affaires, notre société n'a pas grand-chose de bon à dire de l'orgueil. Par contre, et que c'est facile, même si la Bible dit toutes ces choses-là, même si les gens sont bien conscients que l'orgueil n'est pas quelque chose de bon, eh bien, nous y tombons facilement. En tout cas, c'est mon cas. Et là, quelques années, un pasteur que vous connaissez bien m'a dit que ceux qui étaient les plus orgueilleux, c'était ceux qui étaient dans l'œuvre. Et c'est parce que lui était dans l'œuvre. Dans le temps, j'avais un travail séculier et je lui ai répondu, il m'a semblé que c'était dans mon travail séculier que les gens étaient les plus orgueilleux. Alors, ça confirme que l'orgueil est omniprésent dans tous les genres de travail, dans toutes les couches de société. La chair est faible, le cœur est tortueux. Par-dessus tout, on veut être le premier, le plus considéré. On veut avoir de l'influence autour de nous. Lorsqu'un cœur se convertit à Dieu... On n'est plus esclave du péché, n'est-ce pas? Mais le combat est intense. On a vu cette lutte qu'il y a entre l'esprit et la chair avec notre frère Normand. On a vu qu'on avait besoin des armes de l'esprit pour vaincre. Et je peux vous dire qu'on en a besoin pour vaincre et gagner contre l'orgueil. Si je marche en obéissance à Dieu, ce n'est que par la grâce de Dieu, certainement pas par ma capacité, mon pouvoir. Non seulement est-ce que l'orgueil est la racine du péché, que c'est mal devant Dieu, mais elle en entraîne un paquet d'autres. Elle vient pas tout seule. C'est un peu comme les deux chevaux devant la charrette qui transporte un paquet d'autres péchés. Aujourd'hui, on va être dans la deuxième épître de Corinthiens. J'étais dans cette épître-là, quelques semaines, au chapitre 4. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens un petit peu comme si c'était des membres de sa famille. Il a beaucoup d'affection pour les Corinthiens. Mais en même temps, il y a du désordre. Et il y a des faux apôtres qui sont présents, des faux prophètes, je dirais, qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus, et qui prétendent que Paul n'est pas un apôtre. Et même, quand on regarde au chapitre 10 de cette deuxième apôtre, de cette deuxième lettre aux Corinthiens, je dirais qu'il y en a même qui suggèrent qu'il n'est pas à Christ non plus. Et Paul doit confirmer qu'il est à Christ. Alors, comment se défendre devant ces attaques, devant ces gens qui semblent être éloquents, qui semblent être connaissants, qui semblent avoir beaucoup d'influence dans leur entourage? Comment est-ce que Paul va se défendre? Eh bien, s'il fait appel à sa connaissance, à ses capacités, s'il se défend devant les arguments directs que ses ennemis utilisent, on va l'accuser d'être orgueilleux, d'être un arrogant. Alors, il ne se défendra pas de cette façon-là. À la place, il va dire, vous avez raison. Je n'avais pas l'apparence physique pour vous impressionner quand je suis allé chez vous. Je n'avais pas la maîtrise du langage non plus quand je suis allé chez vous. Vous en êtes conscient. Il reconnaît presque toutes les faiblesses qu'il a. Et il dit, c'est vrai, j'ai fait face à toutes sortes de difficultés. J'ai été lapidé. J'ai fait naufrage à plusieurs reprises, même si on n'en a qu'un seul récit dans les Actes. J'ai été chassé en dehors de la ville. Vous avez tous raison. Ils utilisaient cela pour dire, voyez-vous, Dieu est en train de le mettre de côté. Certainement que ce n'est pas un apôtre. Et Paul dit, pourtant, malgré tout cela que vous dites à mon égard, vous avez raison. Et malgré cela, regardez, quand je vous ai prêché l'Évangile, plusieurs d'entre vous sont venus à Christ. J'ai eu une influence incompréhensible sur vous lorsque je suis allé vous voir. Comment vous expliquez cela? Et il va utiliser toutes les situations, les occasions où Paul a été humilié comme preuve qu'il est un apôtre et que c'est certainement pas sa puissance à lui qui agissait dans les Corinthiens, mais c'était la puissance de Dieu qui agissait à travers lui. Alors, après avoir décrit un peu ce qui arrive quand on se convertit, et j'ai parlé sur cela dans les six premiers versets du chapitre 4 de 2 Corinthiens. Eh bien, Paul va nous présenter la condition première, la condition préalable, afin que Dieu agisse à travers lui. Alors, quelle est cette condition préalable? Qu'est-ce qui doit exister chez Paul? Mais chez nous, afin que Dieu se serve de nous puissamment. Bien, prions, s'il vous plaît. On va prier un peu plus tôt pour pas que les gens de la louange viennent en avance aujourd'hui, comme ils ont fait la dernière fois. Alors, courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on est reconnaissant ce matin d'être ici pour avoir pour avoir chanté ces cantiques. Merci pour cette équipe qui était là ce matin. Merci, Seigneur Dieu, parce que ton esprit nous animait quand on chantait « Toi seul est digne ». Seigneur Dieu, tu es le seul qui est digne de toutes nos louanges. Sois avec moi ce matin, mais sois avec chacune des personnes ici ce matin afin qu'ils aient un cœur en paix, malgré peut-être toutes sortes de préoccupations qui les ont animés quand ils sont entrés ici. Que ce soit des choses qui sont arrivées cette semaine, des épreuves, que chacun puisse être en paix, désireux d'entendre ce que tu as à nous dire par ta parole. Et sois avec moi, Seigneur Dieu, que je puisse être utile dans tes mains et que je puisse présenter ton évangile fidèlement. Au nom de ton précieux nom. Amen. Alors, quelle est donc cette condition préalable? Suzanne, dans mon manteau, dans mon veston, les intentions étaient bonnes, j'ai porté un veston, mais la température est encore chaude. Il y a le contrôle pour le projecteur qui est là, dans la poche d'en avant, oui. Non, à l'extérieur du manteau. En haut, Suzanne, sur la lapel, la poche de la lapel. Hein? Hein? On n'a pas coordonné ça ce matin, là, sur
où je mettais
ces bidules-là. Alors, la chaleur, j'avais déjà chaud avant que je monte. J'en vois qui ont leur veston. Alors, c'est peut-être parce que j'avais à monter qui faisait que j'avais chaud, peut-être, n'est-ce pas? Si on va. Donc, quelle est cette condition préalable? Si vous allez pour rapidement au verset du chapitre 3, verset 18, Paul dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Eh bien, donc, petit à petit, Dieu transforme celui qui s'est converti à Dieu et il devient de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et il y a quelque chose bien particulier qui doit resplendir du croyant à mesure qu'il devient de plus en plus à l'image de Christ. Et le verset 7 du chapitre 4 nous en parle. Alors, c'est écrit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Eh bien, ce trésor, c'est ce dont il a parlé au chapitre 3, verset 18, et bien dans plusieurs autres passages. Aussi, dans le chapitre 4, le verset 6, c'est le bien mentionné cela, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu qui est dans notre cœur, qui est resplendie sur la face de Christ. Christ agissant comme un miroir, nous dit le texte. Et donc, par Christ, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Et l'Évangile, donc, devient présent dans nos vies et nous pouvons le partager à ceux qui sont autour de nous. Et Paul y fait référence comme étant un trésor, quelque chose qui a une grande valeur. Et on voit dans les évangiles à plusieurs reprises le Seigneur dire que ceux qui trouvent le salut, qui trouvent la connaissance de Dieu, ils la considèrent comme un grand trésor. Et il utilise la métaphore de celui qui se promène dans un champ et qui trouve un trésor dans le champ. Il est prêt à tout vendre pour acheter le champ où le trésor était. Eh bien, c'est cette même compréhension que Paul a de l'Évangile. Et Paul fait tout un contraste entre ce trésor et un vase de terre. Et il le fait exprès. Il veut démontrer la différence qu'il y a entre l'Évangile qui nous a été donné et que nous pouvons partager, mais ensuite, nous-mêmes, comment on doit se voir face à ce trésor. dans le chapitre 4 au verset 5, mais aussi dans l'introduction de plusieurs de ses épîtres, il va faire référence au fait qu'il est un serviteur, même un esclave de Jésus-Christ. Il ne tient pas la gloire des rois, mais celle d'un esclave, comme Christ lui-même l'a été quand il est venu parmi nous. Il ne manifeste pas la splendeur des autres prédicateurs qui l'attaquaient, qui l'accusaient, mais il dit que sa puissance vient de Dieu. Sa suffisance pour le ministère qu'il a vient de Dieu et non de ses propres forces. Paul se voit comme un vase de terre. Eh bien, un vase de terre, ça n'a pas beaucoup de valeur et c'est très fragile. On a acheté, nous, quand on était à l'île du Prince-Édouard, des objets qui étaient des vases de terre. Mais c'est des vases de terre qui avaient été pris, qui avaient été cuits, qui avaient été dessinés au-dessus. Et ça, c'était plus cher. Daniel a déjà fait des vases, les a cuits. Mais les vases de terre dont on parle, c'est des vases qui ont simplement séché. C'est des vases qu'on utilisait pour comme contenant d'un trésor. Quelqu'un avait un bijou de grande valeur, peut-être de l'argent, il les mettait dans un vase de terre. C'est des vases qu'on utilisait à toutes sortes d'utilités quotidiennes, mais des utilités pas pour impressionner personne, juste parce que c'était approprié, c'était utile pour s'en servir. Ils avaient tellement peu de valeur que les gens, bien souvent, ne prenaient même pas le temps de les nettoyer après leur usage et les brisaient et les jetaient. Alors, c'est toute une image que Paul utilise et les gens comprenaient comment peu de valeur un vase de terre pouvait avoir. En fin de compte, ce qui donnait de la valeur à ce vase de terre, c'était ce qu'il y avait dedans ou l'utilité qu'on en faisait. Ce n'est pas le vase lui-même qui avait une valeur par lui-même. Si les vases de terre n'avaient pas grande valeur, eh bien, la société du temps s'en servait beaucoup. Je comparerais les vases de terre, comme ils étaient utilisés à ce temps-là, à de la vaisselle de papier qu'on se sert. Bien souvent, quand on a plusieurs personnes ici à l'église, on va avoir la foire, la fête du quartier bientôt, le 24, et je suis certain qu'on va avoir des assiettes en papier. On va avoir des ustensiles en plastique. Et qu'est-ce qu'on fait avec cela après? On les jette. Donc, je dirais que vase de terre égale assiette en papier, ustensile en plastique. Non, ce n'est pas que Paul avait un complexe d'infériorité, que Paul n'était pas conscient de la connaissance qu'il avait des Écritures, la connaissance qu'il avait de Dieu. Et au chapitre 12, il va même nous dire qu'il a eu des révélations que personne d'autre semble avoir eu. Mais devant une plus grande connaissance de qui était Dieu, eh bien, Paul sentait que devant ce Dieu-là, si grand, qu'il était comme un vase de terre. Et lorsque j'ai prêché ici la dernière fois sur 2 Corinthiens chapitre 4, des versets 1 à 6. J'avais cité un peu John Owen. Alors, c'est un puritain qui a existé dans ces années-là. Mais il dit, il existe deux choses qui concourent à humilier l'âme des hommes. Et ces deux choses-là, c'est une connaissance appropriée de qui est Dieu et une connaissance juste de qui nous sommes. Et quand on est devant ces deux vérités-là et que notre connaissance grandit en ce que quel est notre Dieu et que notre connaissance grandit dans comment faibles nous sommes, comment facile nous tombons, eh bien, on ne peut qu'élever Dieu et reconnaître qu'on est comme un vase de terre. Certainement que le meilleur exemple que nous avons d'humilité, c'est Christ lui-même. Dans Philippiens, chapitre 2, il y a ce passage-là. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dans notre cas, on ne s'est pas dépouillé. On était un homme faible, un homme sur qui la colère de Dieu était. Et si on n'a pas, si on est libéré de la puissance du péché, eh bien, comme Normand a dit, la présence du péché est encore là et la chair agit encore en nous. Si Christ s'est humilié pour nous, eh bien, il demeure l'exemple parfait. Mais cette humiliation, on voit que Dieu l'a reconnu. Et dans le verset 9 et 10, c'est pourquoi? C'est à cause de son humilité, à cause de sa volonté de se dépouiller lui-même. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Eh bien, dans notre cas, un jour, on va être en présence du Seigneur. On va avoir un nouveau corps, on va partager sa gloire. Mais ici sur terre, on doit suivre l'exemple de Jésus-Christ. La condition préalable pour être utile dans les mains de Dieu, c'est d'avoir un cœur humble et d'être prêt à faire face à toutes sortes de faiblesses. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, il nous dit au verset 7 qu'on a vu tantôt, « Afin que cette grande puissance soit attribué à Dieu. » Donc, un cœur qui est orgueilleux, Dieu ne s'en servira pas. Mais un cœur humble, Dieu va s'en servir et il va manifester sa puissance à lui afin de rejoindre les autres. C'est dans l'humiliation de Christ que la puissance de Dieu s'est manifestée, n'est-ce pas, versets 9 et 10. C'est après que Christ s'est humilié et qu'il a subi une mort méprisante, honteuse, que Dieu l'a ressuscité et l'a élevé. Paul se voit comme un vase de terre pour un but et un résultat précis. C'est que la puissance soit attribuée à Dieu. Et la condition préalable pour que la puissance de Dieu soit manifestée dans nos vies comme dans celle de Paul, et que nous soyons faibles, humbles, ici, sur cette terre. C'est un principe à travers la Bible, ce sont les personnages bibliques les plus humbles que Dieu a utilisés. Parmi les patriarches, on pourrait penser à Abraham, Moïse, Gédéon, David. Si on pense à Moïse, il se pensait pour quelqu'un, mais Dieu l'a mis de côté pendant 40 ans. Et au bout de 40 ans, il s'en est servi. Les apôtres n'étaient pas des gens très spectaculaires, c'était que des pécheurs sans instruction ayant peu d'influence autour d'eux. Peut-être les poissons, quand ils allaient à la pêche. Mais c'est à peu près les seuls sur lesquels ils pouvaient avoir une influence. Et on voit dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26, je ne sais pas si je l'ai ici, oui, un passage où Paul dit que c'est le plan de Dieu dans un sens. Et il dit, Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Et dans quel but? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Paul va répéter cela dans Éphésiens chapitre 2, lorsqu'il parle que nous sommes sauvés par la grâce, que c'est par le moyen de la foi. Et il va dire, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dieu cherche des hommes humbles. Paul reconnaît que lorsqu'il se présenta devant les Corinthiens, qu'il n'était pas très impressionnant au niveau de son apparence physique, de sa maîtrise de la langue, des talents peut-être d'orateur. Il me semble qu'il a beaucoup de talents quand je lis ses épîtres. Mais peut-être que, comparé à d'autres, il n'avait pas le charisme que d'autres avaient. C'est dans l'humilité qu'il défend son apostolat. Il finit ce verset 7 encore en mettant l'emphase sur l'humilité. Et il dit, « Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. » Mais il finit pas la phrase là. Il la finit avec « et non pas à nous. » Au verset 5 du même chapitre 4, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ. L'humilité, la faiblesse, est un prérequis pour que Dieu manifeste sa puissance à travers son enfant. C'est la condition préalable pour toute utilité spirituelle. C'est l'attitude que je dois avoir afin que Dieu se serve de moi puissamment comme un instrument dans ses mains. Eh bien, c'est le champ de bataille le plus intense que moi j'ai, et je pense que la plupart d'entre nous. On aime être élevé. On aime la gloire. On aime se comparer avec les autres et se dire, « Sais-tu, je pense que je suis mieux que l'autre. » On aime. On a ces pensées-là facilement. Et quand on prépare une prédication, on y met de l'effort, on cherche à faire un bon travail, puis on n'est pas à l'abri de l'orgueil. « Hey, ça va être fantastique, ça. » Non, on est tout le temps en combat contre l'orgueil. C'est, je pense, le combat premier que nous avons. La puissance de Dieu nous délivre du péché. C'est vrai, mais ça demeure un combat dans ma vie et je crois dans vos vies. Mais comment est-ce que la puissance de Dieu va se manifester? Comment est-ce que la puissance de Dieu va faire une différence si, comme Paul, j'ai une attitude d'humilité? Et on va voir graduellement comment la puissance de Dieu va se manifester. Donc, la condition préalable de l'humilité, la condition préalable, c'est l'humilité dans notre cœur. On voit aussi que c'est nécessaire afin que Dieu manifeste sa puissance à travers le croyant, à travers Paul ici, à travers chacun de nous qui sommes ses enfants. Une des conséquences qu'on voit, c'est dans les versets 8 et 9. On voit que Paul, comme j'ai mentionné tantôt, fait face à toutes sortes d'épreuves. Nous sommes, dit-il, pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. L'une des manifestations de la puissance de Dieu, c'est d'être capable de persévérer malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré nos faiblesses. La puissance de Dieu va nous permettre de continuer et de ne pas abandonner, de ne pas être au bout de notre rouleau. Non. Même si chacun de ces éléments-là, il en mentionne quatre, pressés, dans la détresse, persécutés, non réduits à l'extrémité, non dans le désespoir, non abandonnés, non perdus. La puissance de Dieu, dans ce qu'on va vivre, dans tous les événements qu'on va vivre, Dieu va nous permettre de persévérer et de continuer. La puissance de Dieu a délivré Paul, lui a permis de continuer son ministère, malgré toutes les difficultés auxquelles il a fait face. C'est dans la souffrance que Dieu travaille le plus dans notre vie, on le voit dans l'épître de Jacques. C'est quand je suis faible que le pouvoir de Dieu entre en jeu et me délivre. Lorsqu'une foi humble, un amour cruciforme confronte le monde dans lequel on vit, il ne faut pas s'étonner qu'on qu'on ait à faire face à des persécutions, à des rejets. Et certainement que Paul confrontait les Juifs de son temps, confrontait leur compréhension des Écritures, confrontait leur tradition, confrontait leur orgueil. Et le croyant qui vit ici, sur cette terre, va faire face aussi à toutes sortes de persécutions parce que notre parole, notre manière de vivre va menacer la leur. Et les gens ne veulent pas changer leur manière de vivre. Alors, ils vont chercher à nous calomnier, à nous mépriser, à nous rejeter, à nous mettre de côté. Pierre nous mentionnera cela dans sa première épître, au chapitre 2, au verset 12. Il dit, « Ayant au milieu des non-croyants une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Eh bien, les gens, même si on a une bonne conduite parmi eux, ils vont nous calomnier. Mais malgré la calomnie, ils vont voir que ce qu'on fait est bien. Et peut-être qu'un jour, quand Dieu va les visiter, ils vont eux aussi donner leur vie au Seigneur. Au chapitre 3 de 1 Pierre, c'est marqué, verset 14, d'ailleurs, quand vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Donc, même dans la justice, on va souffrir. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. S'ils ne viennent pas au Seigneur, eh bien, de voir notre bonne conduite, même s'ils nous ont calomniés, même s'ils nous ont accusés d'être des malfaiteurs, ils vont être dans la confusion. Ils vont dire, je ne comprends pas. Je les calomnie, je les traite de malfaiteurs, ils ne me remettent pas le mal que je leur fais. À place, ils me font du bien. Et, Pierre dit, ils vont être dans la confusion. L'humilité de Paul, sa faiblesse, ses souffrances sont devenues un tremplin pour que la puissance de Dieu se manifeste et lui permette de persévérer devant toute épreuve. Et c'est de même pour moi et pour vous. Si on se considère des vases de terre pour l'Évangile de Christ, la puissance de Dieu va se manifester et nous pourrons persévérer dans notre témoignage chrétien devant toute épreuve. On va pouvoir rester debout. Les plus grands hommes de Dieu ont souffert le rejet, la dépression, et ils ont été amenés à reconnaître qu'ils demeurent debout, non par leur propre force, mais bien par la grâce de Dieu. Et je vais vous lire une citation de Charles Spurgeon. C'est Tim Savage qui... c'est un petit peu gros. On voit pas... peut-être, oui, pas pire, hein? Alors, je vais vous le lire. Alors, vous allez voir, c'est comme Charles Spurgeon qui commente sa vie. Et il dit ceci. Je ne m'attends pas à voir autant de conversions en ces lieux que j'en ai eu il y a un an, alors que j'avais moins d'auditeurs. Donc, il dit, l'année qui s'en vient ne sera pas aussi bonne que l'année qui vient de se passer, quand j'avais moins d'auditeurs. Vous me demandez pourquoi? C'est qu'il y a un an, j'étais désavoué de tous. Mentionner mon nom équivalait à citer le nom du plus abominable des bouffons que le monde ait jamais connu. Le seul fait de l'énoncer suscitait des jurons et des blasphèmes aux yeux de plusieurs. Il était associé au mépris, le nom qu'on renvoyait d'un coup de pied dans la rue, tel un ballon de football. Mais alors, Dieu m'a donné des âmes par centaines qui se sont ajoutées à mon Église, et ce fut personnellement mon bonheur de voir pas moins d'un million de conversions en un an. Ça, c'est un réveil. On est peut-être ce matin ici, 250, 300. Ça fait depuis 83, que 77 que l'Église existe ici dans un an. Un millier de conversions en un an. Je ne m'attends pas à cela maintenant. Hein? Mon nom jouit d'une certaine notoriété. Et les grands de ce monde se considèrent pas comme un déshonneur de s'asseoir à mes pieds. Imaginez-vous le contraste, n'est-ce pas? Mais cela me fait craindre d'être abandonné de Dieu alors que le monde m'estime. Je préférais être méprisé et diffamé. Nous devrions apprendre à être méprisé, apprendre à être condamné, apprendre à être calomnié, et nous apprendrons alors à devenir utiles à Dieu. Je pense que... Oui. Je suis souvent tombé à genoux. Une sueur brûlante ruisselant sur mon front à l'annonce d'une nouvelle calomnie proférée contre moi lorsqu'il était méprisé comme de raison. Mon cœur a été sur le point de se briser par l'agonie et la tristesse jusqu'à ce que j'apprenne à tout supporter et à ne faire aucun cas de ces choses. Et maintenant, mon chagrin suit un autre cours qui se trouve exactement à l'opposé. Je crains que Dieu ne m'abandonne pour prouver qu'il est l'auteur du salut, que ce n'est ni le prédicateur, ni la foule, ni l'attention que je peux susciter, mais Dieu et Dieu seul qui sauve. J'espère pouvoir dire du fond de mon cœur que si je deviens à nouveau la fange des rues, la risée des fous et la chanson des ivrognes, mais que cela me rende encore plus serviable envers mon maître et plus utile à sa cause, je préfère cette condition aux applaudissements que l'homme peut donner. Charles Spurgeon avait la certitude que dans l'humilité et la faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste en le rendant capable de persévérer dans l'adversité, en s'habituant même à persévérer dans l'adversité et en l'utilisant pour amener des milliers d'âmes à Christ. C'est à cause d'un cœur humble que Dieu va distribuer sa puissance afin qu'on persévère dans la foi et qu'on puisse rejoindre plusieurs personnes. Alors, un résultat de l'humilité, c'est que la puissance de Dieu se manifeste en moi. Et comment va-t-elle se manifester? Eh bien, elle va me permettre de persévérer dans l'épreuve. Au verset 10 et 11 et 12, on voit que Paul considère toutes ces épreuves-là mentionnées tantôt au verset 8 et 9 comme la mort de Christ qui agit en lui. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, la vie après la résurrection, soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ces épreuves, pour Paul, c'était comme souffrir ce que Christ a souffert jusqu'à la mort à la croix. Mais ces souffrances-là allaient produire en lui l'image de Christ, l'humilité de Christ. Et cette humilité allait briller devant les autres afin qu'eux puissent venir à Christ. Et il dit au verset 12, « Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous, Corinthiens. » Verset 10 et au verset 11, il dit que la vie de Jésus est manifestée dans son corps. Mais dans quel but, dans quel objectif? Afin que la vie agisse ici, dans les Corinthiens, mais aujourd'hui, dans ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, donc les souffrances, les persécutions, les faiblesses qu'on a agissent en notre corps, dans notre chair. Mais ce que ça fait, c'est que je deviens de plus en plus à l'image de Christ, et cela produit un effet en ceux qui nous regardent. Et c'est le message ici. Cette transformation s'accomplit peu à peu, comme le dit dans le verset 3-18 qu'on a regardé tantôt. Cette lumière qui brille dans nos cœurs resplendit la connaissance de la gloire de Dieu sur les autres autour de nous. Comme Christ, pour qui les souffrances de la passion ont précédé la résurrection de Christ, de même, Paul persévère dans les souffrances afin que la vie de Christ soit manifesté en son corps. Et comme la mort de Christ et la résurrection de Christ a permis à tous ceux qui croient en lui d'avoir la vie éternelle, Paul affirme que la mort qui agit en lui a procuré la vie aux Corinthiens qui ont cru. Et c'est de même pour le croyant aujourd'hui. Lorsque nous faisons face à la faiblesse et à la souffrance, nous sommes livrés à la mort de Christ. Mais c'est afin que la vie de Christ soit manifestée dans notre corps. Le verset 12 nous rappelle le but du ministère dans l'humilité et la souffrance. Paul a accepté la faiblesse et la souffrance parce qu'elle produirait la vie de Christ à ceux qu'il prêche l'Évangile. Donc l'humilité est nécessaire pour que Dieu manifeste sa puissance en nous et que notre persévérance dans les épreuves transforme notre vie à l'image de Christ et qu'on puisse faire briller la gloire de Dieu chez les autres autour de nous. On voit dans les versets 13 et 14 comment Paul est zélé et nous dit pourquoi il est zélé de prêcher l'Évangile. Les versets 13 et 14, nous lisons, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. L'humilité et la puissance de Dieu donnent à Paul le courage de prêcher l'Évangile. Et si Paul a prêché l'Évangile aux Corinthiens, ce n'était pas parce qu'il avait la maîtrise de la langue, ce n'était pas parce qu'il avait les qualités d'un orateur hors pair, mais c'est animé d'une même foi que David qui a écrit le psaume 116 et le verset 10, qui a, c'est écrié, j'ai cru, donc j'ai parlé. Pour Paul, il était impossible de croire à l'Évangile sans la proclamer. Sa foi était qu'un jour, il était pour ressusciter avec Jésus-Christ. Et non seulement lui, mais ceux à qui il a prêché l'Évangile, un jour, eux aussi seraient ressuscités et seraient en présence avec lui auprès du Seigneur. Paul est poussé à témoigner de la vérité avec force, régularité et assurance. Il avait l'espoir qu'un jour, il serait ressuscité et il serait en présence du Seigneur. Dieu lui a donné comme de raison le discernement dans les paroles, dans les occasions et dans la manière d'en parler. Une attitude d'humilité donne à Dieu le désir de manifester sa puissance en nous, en nous donnant le courage et le zèle de parler de l'Évangile avec assurance et de rappeler que le Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi. Un jour, il nous fera paraître en sa présence avec tous ceux qui se sont convertis sous notre ministère. Ceux qui croient la vérité ne peuvent s'empêcher de la proclamer. Et on voit au verset 15, le dernier verset de notre passage qu'on va voir ce matin, « Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. » Paul manifeste son humilité à plusieurs reprises. Au verset 5, lorsqu'il dit qu'il ne se prêche pas lui-même, au verset 7, il dit qu'il est un vase de terre. Il veut que la grande puissance de Dieu soit attribuée à Dieu et non pas à lui. Il ne veut pas que lui soit élevé. Au verset 12, il dit que la mort agit en lui afin que la vie de Christ agisse dans les Corinthiens. Il ne veut pas s'élever lui-même. Et au verset 15, il résume que tout ce qu'il souffre, tout ce qu'il a vécu, il le fait pas pour lui-même, pas pour s'élever, s'enrichir, pour agrandir son influence. Non, il le fait à cause des Corinthiens. Paul ne veut pas attirer aucune gloire, aucun mérite pour la puissance de Dieu. Il veut que tout revienne à Dieu, que ce soit la puissance de Dieu qui se manifeste à travers lui et qui permette que plusieurs viennent à la connaissance de Christ et qu'ils se convertissent. Et de cette façon, lorsque nous serons tous en présence du Seigneur, les actions de grâce vont abonder. Avec un plus grand nombre de personnes qui se sont converties à Dieu, eh bien, on sera plus nombreux au ciel, en présence de Christ, à faire des actions de grâce à la gloire de notre Seigneur. À cause de son humilité, sa faiblesse, Dieu a utilisé Paul pour manifester sa grande puissance. Et cela a permis à Paul d'être un outil dans les mains de Dieu afin que plusieurs viennent à Christ et que les actions de grâce abondent. La sommeur interprète ce verset 15-là comme ceci. « Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. » Notre vie n'est pas futile. Dieu promet que plusieurs viendront à Christ à cause de sa puissance qui va se manifester si nous-mêmes, on a une attitude d'humilité, une attitude d'humilité dans la souffrance. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, on connaît bien ce passage. Suite à l'écharpe qu'il avait dans la chair, Paul a demandé, demander à Dieu, au moins par trois reprises, de l'enlever. Et Dieu lui dit, « Non, tu dois la garder. » Et au verset 10 de 2 Corinthiens, Paul dit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Il ne faut pas juste les supporter. Il se plaît dans les faiblesses. Il les accepte. Il voit comment ces faiblesses ont été utiles pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le salut d'un grand nombre. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu cherche des cœurs humbles, qui ne cherchent pas leur propre gloire, mais celle de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'humilité est la condition première et obligatoire pour qu'il manifeste sa puissance en eux, afin qu'on puisse persévérer lorsqu'on a fait face à des épreuves, qu'on peut être transformé à l'image de Christ, qui lui-même était l'exemple d'humilité, qu'on puisse prêcher l'Évangile avec zèle et avec assurance dans l'espoir que nous avons, qu'on puisse voir un grand nombre se convertir à Christ afin de faire abonder les actions de grâce à l'égard de notre Seigneur. Dans Genèse, chapitre 4, après que Caïn a offert un sacrifice, mais qui n'a pas plu à Dieu, tandis que Abel, lui, avait offert un sacrifice qui avait plu à Dieu. Dieu s'adresse à Caïn et lui dit, au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Choisissons, nous, de bien agir. Choisissons de combattre l'orgueil et de refléter l'humilité. Pourquoi? Afin d'être des instruments précieux dans les mains de Dieu. On va terminer ici, vraiment, une exhortation à l'humilité. Un texte qui nous rappelle qu'à moins qu'on ait un cœur humble, Dieu ne se servira pas de nous. Il nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil est à ma porte. Et je dois veiller sur elle et décider de combattre avec les armes que Dieu me donne. Courbons-nous, s'il vous plaît. Merci, Seigneur Dieu, pour ce texte. Merci pour les exemples d'hommes qui n'avaient pas grand éclat. Mais qui étaient humbles. Et dans leur faiblesse, Seigneur, c'était incontestable que c'est toi qui agissais, que c'est ta force, ta puissance qui se manifestait et qui touchait les cœurs à qui ton évangile était prêché. Seigneur, qu'on puisse combattre l'orgueil, que je puisse la combattre moi-même et que chacun ici puisse refléter l'humilité qui était en Christ lorsqu'il est venu sur cette terre et qui est allé jusqu'à être crucifié sur la croix. En ton nom. Amen.